ORF Beat.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, la délinquance environnementale comme le trafic d'espèces protégées est la troisième activité criminelle la plus rentable dans le monde. Les pollutions intentionnelles de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons, des aliments que nous consommons ont un coût considérable pour la société et les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique mettent en cause rien de moins que l'avenir de l'humanité. Mais qui sanctionne tout cela ? Il existe bien sûr un droit de l'environnement, mais il est peu ou pas appliqué. Manque de moyens financiers, nombre trop faible d'enquêteurs et de juges formés, des lois qui s'empilent sans cohérence. La justice environnementale n'est pas suffisamment prise au sérieux, mais les contentieux s'accumulent et elle est en train d'évoluer. Nous en parlons tout de suite avec nos invités.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes avocate, docteur en droit, ancienne ministre de l'Environnement. Vous avez publié plus de 500 articles et une trentaine de livres. Vous vous battez pour l'application du droit de l'environnement depuis, on peut le dire...
Ça va bientôt faire 50 ans.
Oui, j'ai vu. 1975.
J'ai prêté serment 75, donc ça fera 50 ans l'année prochaine.
Bonjour Martha Toré-Chaube.
Bonjour.
Vous êtes juriste, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du changement climatique et du droit de l'environnement et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez coordonné un ouvrage intitulé « Les risques climatiques à l'épreuve du droit » publié chez Marais Martin. Et cette semaine, vous avez organisé un colloque sur le thème « La nature a-t-elle des droits ?» C'est un questionnement qui prend de l'ampleur.
Oui, de plus en plus. Donc, on a souhaité organiser ce colloque justement pour réunir plusieurs points de vue, puisqu'il n'y a pas forcément un accord sur le sujet. Et on a voulu mettre un peu tout ça en dialogue.
Nous allons en reparler. Mais pour débuter cette émission, nous sommes en ligne avec Mathieu Aron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste de la justice et conseiller éditorial à l'Obs, un hebdomadaire français. Vous avez lancé une tribune intitulée « Nous demandons justice pour l'environnement » qui a été signée par plus de 70 personnalités, dont vous, Corinne Lepage. Alors, dans cette tribune, vous réclamez davantage de juges et la création d'un service de police judiciaire environnementale. Car aujourd'hui, Mathieu Aron, les délits progressent et les poursuites régressent. Dans quelle proportion ?
Oui, c'est ce qui nous a surpris à l'Obs quand on a décidé de lancer cet appel, si vous voulez, c'est que la justice est quand même en grande partie défaillante pour répondre à toutes ces atteintes à l'environnement. On a regardé les chiffres et en fait, sur les dernières statistiques connues, qui sont les années 2015-2019, on s'aperçoit qu'il y a en fait moitié moins de délits qui sont poursuivis devant les tribunaux que dans les années 90. Alors, c'est quand même un paradoxe. Aujourd'hui, il y a une sensibilité très forte de l'opinion publique vis-à-vis de ces atteintes à l'environnement, et elles sont de plus en plus graves quand on pense aux conséquences pour les bouleversements climatiques. Et pourtant, l'appareil judiciaire n'est toujours pas adapté.
Parce que les chiffres sont quand même effrayants. Hein. Les infractions traitées entre 2015 et 2019 en termes d'environnement, c'est seulement 1% des infractions selon le ministère de la Justice. Et vous écrivez que sur 100 000 délits constatés, il y a 6 190 délits qui ont été traduits en justice. 320 seulement ont été condamnés à une peine d'emprisonnement ferme. C'est vraiment affligeant. Alors comment ce constat peut-il s'expliquer ?
Alors, par toute une série de raisons, comme d'habitude, il n'y a jamais une seule raison. Je crois qu'il y a, plusieurs grandes raisons. D'abord, il faut voir que notre justice est peu spécialisée pour poursuivre les atteintes à l'environnement. Pendant très longtemps, d'ailleurs, même au sein de l'École nationale de la magistrature, il y avait une formation qui était minimaliste, on va dire, en matière d'environnement. Et beaucoup de magistrats qui sont en poste aujourd'hui ont en fait une connaissance assez faible de ces dossiers. Alors récemment, depuis un an ou deux, l'ENM a développé de la formation continue. Il n'empêche que les magistrats en poste, eux, sont peu formés. Deuxièmement, il n'y a pas assez de procureurs pour poursuivre. Alors, il y a eu des réformes depuis 2-3 ans hein, qui ont été lancées, elles vont dans un sens positif, Il n'empêche que, même si on a créé dans chaque parquet un procureur référent environnement, en fait, on a parlé aux magistrats et bien souvent, ça consiste à avoir peut-être une demi-journée par mois à consacrer à ces dossiers. On se rend compte qu'on s'est trop peu. Alors, il manque de procureurs pour poursuivre, mais il manque aussi d'enquêteurs pour enquêter. Et ça, c'est très problématique. On a en France beaucoup. Alors, il y a une myriade d'agences qui travaillent là-dessus. Il y a 25 agences, en réalité, avec une principale qui est l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Le problème, c'est que ce sont d'abord des agents administratifs. Alors, on leur a donné une compétence judiciaire pour pouvoir mener des enquêtes judiciaires, de l'avis d'un certain nombre de spécialistes. En réalité, il y a plutôt une culture administrative. Donc, il y a peu d'enquêtes qui sont menées, avec peu de procureurs pour poursuivre. Donc, en conséquence, peu de dossiers qui arrivent au tribunal. Et quand ils arrivent au tribunal, il y a bien souvent toute une série de dispositions qui sont prises pour éviter en réalité qu'il y ait des condamnations trop fortes. On passe par tout un appareil judiciaire avec beaucoup d'ordonnances pénales. Et en fait, il y a très peu de contrevenants qui sont réellement condamnés. Pour le dire simplement, quand vous commettez un délit environnemental, vous n'avez quasiment aucun risque de vous trouver en prison en France.
Nous ne devrions peut-être pas trop le crier sur les toits, mais en tout cas, merci Mathieu Aron pour cet exposé et bravo pour cette initiative. Corinne Lepage, comment est-ce que s'explique ce tableau et qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce
Bon, je voudrais
qu'expliquait Mathieu
remercier
Aron?
Mathieu Aron et l'Obs pour avoir lancé cette initiative qui me paraît importante parce que c'est un journal grand public et donc ça permet au grand public de comprendre. Vous avez raison de commencer en disant que c'était la troisième cause de la criminalité organisée quand même, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a des mafias qui sont en place, à la fois pour les espèces protégées que vous avez citées, mais aussi les trafics de déchets qui sont extrêmement importants, extrêmement rentables. Alors pourquoi on en est arrivé là? Je dirais que c'est une vieille histoire. Dans les 1% que vous citez, je voudrais rappeler aussi qu'il y a 0,5% qui sont la chasse, la moitié des infractions, c'est la chasse. C'est-à-dire, c'est pas bien de tuer des espèces protégées, mais enfin, il y a plus grave quand même. Donc, les vraies infractions environnementales sont peu effectivement réprimées. Comme vous l'a dit Mathieu Aron, il y a eu des transformations, la création de pôles santé-environnement. Il y en avait déjà deux, Paris-Marseille, donc on en a créé maintenant de manière régionale. Il y a une organisation administrative qui s'est mise en place pour créer des systèmes administratifs qui vont regrouper tous ceux qui sont chargés de surveiller et de poursuivre les infractions. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, un, on manque de magistrats en France de toute façon. Donc, ces pôles qui ont été créés, ils l'ont été à effectif constant. Donc, on n'a pas les moyens, ni au niveau de la magistrature assise, ni au niveau des parquets. C'est vraiment pas une priorité. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas une priorité? Ben, pour des raisons économiques évidentes. C'est que beaucoup d'infractions environnementales sont liées au fonctionnement économique. Et que, compte tenu d'un chômage de masse, compte tenu de toute une série de raisons, pour moi ne sont pas légitimes, hein, mais qui existent, c'est pas une
On ferme les
priorité
yeux.
des pouvoirs publics.
Martha Torrechaube, comment est-ce que vous réagissez à ce tableau?
Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, le manque des moyens, la faible formation. Dans les facultés de droit maintenant, il y a vraiment une demande constante et croissante de la part des étudiants et de ceux qui veulent intégrer l'école de la magistrature à pouvoir être formés à cela. Et les spécialistes du droit de l'environnement, peu à peu, on est invités à participer à ces formations. Mais encore faudrait-il effectivement que des moyens soient créés pour qu'il y ait des vrais postes et pas, comme a dit Madame Lepage, un effectif constant dans lequel tout simplement, on va faire qu'une même personne travaille sur deux spécialités différentes sans avoir d'ailleurs forcément la technique et les connaissances suffisantes derrière. Voilà.
Et nous sommes en France, un pays qui aime le droit, qui
Oui.
a quand même de nombreuses, enfin une législation
Il
très
aime les
lourde.
normes, je dirais qu'il aime les normes plus qu'il aime le droit. C'est pas
Ouais.
tout à fait la même chose, hein.
Mais ça veut dire que dans d'autres pays, c'est largement pire.
Ben oui, il y a des pays où c'est pire, bien sûr. Mm. Il y a peut-être des pays où c'est mieux aussi. Je veux dire,
il y a
voilà.
Des pays où c'est mieux. En tout cas, où ils ont réfléchi il y a quelques temps, par exemple en Espagne, il y a des sortes de pôles de la gendarmerie qui sont dédiés à la poursuite et à la recherche et à l'investigation. On travaille donc des inspecteurs. Donc il y a quelques moyens qui sont vraiment accordés à cela, mais c'est encore très minoritaire, c'est presque expérimental. Et je crois qu'en France, on s'est dirigé aussi vers ce type de système, mais encore faut-il donner les moyens. C'est pas seulement donc un effet d'annonce, il faut
suivre et créer
après
des formations.
Alors, ouais. Il y a le CLAESP quand même dont on n'a pas du tout parlé.
Qui est ?
Et qui est l'office précisément qui est chargé, parce qu'on a parlé de l'OFB qui s'occupe de la biodiversité. Mais le CLAESP, lui, c'est l'office qui est chargé de l'instruction, ça dépend de la gendarmerie nationale, et c'est un office qui est doté de plusieurs centaines de personnes, hein, c'est extrêmement sérieux, et qui est chargé d'enquêter sur les infractions en matière environnementale. C'est une organisation qui aujourd'hui est décentralisée, donc il y a un pôle à côté de Paris, mais il y en a maintenant dans toutes les régions. Ils font un travail extrêmement, extrêmement sérieux, mais toutes les spécialités ne sont pas couvertes. Parce qu'une des difficultés du sujet, c'est qu'en matière environnementale, vous touchez à la santé, vous touchez à la biodiversité, vous touchez à l'agriculture, vous touchez au nucléaire, vous touchez à énormément de domaines qui demandent chacun une vraie spécialité, voyez-vous. Donc, c'est pas simple. Et puis, il y a un point dont on n'a pas parlé et sur lequel Jean-Philippe Rivaud, qui dirige l'association des procureurs pour l'environnement, insiste beaucoup, et il a raison, c'est que dans le code pénal, vous n'avez pratiquement rien sur l'environnement. En fait, les textes de répression, vous les trouvez dans tous les codes possibles et imaginables, mais pas dans le code pénal. Il n'y a pas de texte global, si vous voulez, qui regroupe toutes les infractions en matière environnementale.
Oui, donc pour s'y retrouver, c'est évidemment compliqué.
Il faut connaître.
Alors, il y a quand même des avancées. Par exemple, le crime d'écocide, qui signifie tuer un écosystème, a été introduit dans la loi française en 2021 et le 24 février dernier. Non, 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 me dites-vous.
Non, c'est pas un crime, c'est un délit.
C'est justement voilà, ça
c'est
tout le problème.
Délit, voilà.
C'est qu'il a oui. pas. C'est au niveau européen qu'il a été reconnu comme un crime non plus
non
le 24 février dernier.
Non plus, on a fait des grandes envolées lyriques
mais...
en disant
moi,
c'est
lu
génial,
la presse,
on a un crime d'écocide. C'est oui, du pipeau, c'est pas vrai.
C'est une proposition qui a été faite par des groupes et qui a pu être entendue pour éventuellement ensuite commencer à réfléchir à la manière des légiférer sur ça. Alors, mais c'est encore au stade totalement embryonnaire et c'est pas du tout encore adopté.
Alors, ce qu'il y a, il y a deux choses. Dans la loi française, vous avez le délit d'écocide, ce qui est une ânerie, excusez-moi. Mais quand vous avez cide dans un mot, cide, ça veut dire tuer. Mmh. Donc c'est pas un délit.
C'est
il y a
crime.
Féminicide, hominicide, tout ce que vous voulez, on tue. Donc c'est un crime. Donc un délit d'écocide, c'est absurde. En plus, la manière dont c'est rédigé, ça c'est le praticien qui parle, vous allez m'expliquer comment je vais prouver que dans 10 ans, le préjudice, parce qu'il faut, pour qu'il y ait un écocide en droit français, il faut un préjudice qui va durer au moins 10 ans. Vous allez m'expliquer comment moi, praticien, je vais prouver que dans 10 ans, le dommage sera toujours là. C'est pas évident. Au niveau communautaire, vous avez raison, il y a une directive qui vient d'être votée, qui modifie une directive de 2008 qui est l'application du droit de l'environnement par le droit pénal. Il est vrai que dans cette directive, le mot écocide est prononcé. Mais en fait, il est prononcé dans un cadre qui reste délictuel. Et lorsqu'il est porté atteinte de manière irréversible à etc. etc. Donc il faudra voir comment ce sera transcrit ensuite en droit interne. Mais c'est pas criminalisé, si vous voulez. Ça reste à l'état de chaque État de dire ce qu'il veut en faire.
Donc, une fois de plus, ce n'est pas à la hauteur de
l'enjeu.
On vous a bien entendu. Alors, comment faire évoluer justement le droit de l'environnement pour qu'il soit vraiment efficace? Nous en parlons avec nos invités aujourd'hui dans C'est pas du vent. Mais place tout d'abord à la musique avec le Marocain Fadoul et son titre Sid Redad sur RFI. مشتاق الكاس
الكاس دنيا حنينة العيشة فيها فنينة مشتاق الكاس ها أسيد سباب هذا مكتب وفغلت خمام وفغلت الحلم حتى رسلم تقلل مكلم وحدي مطلم وعمول الباس راني مشتاق الكاس
Le Marocain Fadoul et son titre Sid Redad sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous parlons du droit de l'environnement aujourd'hui dans C'est pas du vent avec l'avocate Corinne Lepage et la juriste Martha Torrechom. Un droit qui a évolué depuis les années 70 mais qui est peu considéré et encore moins appliqué, d'où un changement de stratégie de votre part. Corinne Lepage, vous avez lancé une action collective ayant comme objectif de demander réparation à l'État pour les victimes non professionnelles des pesticides. Expliquez-nous cela.
Si vous voulez, de manière très juste... À mon avis, très légitime, la loi sur le financement de la sécurité sociale de 2020 a prévu d'indemniser les agriculteurs qui souffraient d'un certain nombre de maladies. Aujourd'hui, il y en a 3. En fait, le gouvernement, dans son plan Ecophyto, reconnaît qu'il y en a 6 qui sont liées aux pesticides. Alors, quel est l'avantage, si j'ose dire, parler d'avantage, c'est un peu malvenu, de faire entrer ces maladies sur la liste des maladies professionnelles? C'est que vous n'avez pas de lien de causalité à prouver. Vous dites, je suis agriculteur, j'ai utilisé des pesticides, j'ai un lymphome non-Hodgkinien, j'ai la maladie de Parkinson ou j'ai un cancer de la prostate, j'ai le droit à être indemnisé. Sauf que ce système, encore une fois très légitime et de plus en plus utilisé, ne s'applique pas aux riverains. Or, à mon sens, les riverains sont au moins aussi concernés que les agriculteurs. Pourquoi ?
Parce que les épandages ne s'arrêtent pas
parce
champ
que
de
les agriculteurs. D'abord. Et puis deuxièmement, les agriculteurs, ils ont une obligation de protection. Quand ils préparent les pesticides, quand ils les épandent, ils ont un masque, ils ont des lunettes de protection et ils ont un habit de protection.
Dans l'idéal, oui.
En principe. Bon, sans, avec tous les débats qu'il y a autour du point de savoir si c'est suffisant, pas suffisant, etc. Et ils ne reviennent pas dans le champ pendant 48 heures. Le gamin de 5 ans ou de 6 ans qui joue dans le jardin à côté du champ d'épandage, il est tout nu ou pratiquement l'été. Il vit dans sa maison, donc il va rester les 48 heures. Et les parents, c'est la même chose. Or, pour eux, il n'y a rien de prévu. Or, il y a des pathologies comparables. Et donc, nous nous sommes dit que pour faire bouger le système, il fallait essayer de trouver quelque chose. Donc, l'idée de cette action collective que nous avons lancée via une plateforme que nous avons initiée au cabinet... pour permettre à tous ceux qui remplissaient un certain nombre de conditions, c'est pas n'importe quoi, hein, qui remplissent un certain nombre de conditions de distance par rapport au champ d'épandage, de pathologie, etc.,
de se manifester.
On a mis 150 mètres, ce qui est franchement très raisonnable, parce que quand vous voyez l'étude qui a été faite sur la vigne, qui est sortie il y a à peu près un an, c'est 1 km. C'est-à-dire que jusqu'à 1 km... il y a des excès de cancer infantile, puisque l'étude a été faite sur les cancers infantiles. Nous, on a dit 150 mètres, ce qui est vraiment très réducteur. Hein. Bon. Et puis, en recevant les dossiers, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les trois pathologies. Il y en avait bien d'autres qui sont reconnues dans le gros rapport de l'INSERM sur les pesticides comme étant potentiellement en lien avec les pesticides. Donc, on va étendre le sujet. Et pourquoi on a fait une action collective ? Ben, tout simplement parce que l'action de classe en France, ça n'existe pas vraiment. Les associations de consommateurs ont le droit de lancer quelque chose qui ressemble un peu à l'action de classe américaine, mais ils ne le font pas sur des sujets de cet ordre. Voilà,
donc là, il suffit de remplir une fiche de renseignement en ligne. Voilà. Et puis, si la fiche est retenue, eh bien, à ce moment-là...
Oui, parce qu'on ne veut pas... si vous voulez, les dépenses sont très modestes. Hein, c'est des actions à 200 euros. Bon, pour toute la procédure. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Mais on ne veut pas engager des gens qui n'ont aucune chance. Donc, évidemment qu'on regarde les dossiers avant. Et ensuite, donc, je pense qu'on lancera l'action d'ici la fin du mois de juin. Là, les demandes rentrent très régulièrement tous les jours.
Vous avez beaucoup de demandes ?
C'est pas énorme, mais enfin, on en a une quarantaine aujourd'hui. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que ça vient de beaucoup de régions de France. Ça ne vient pas tout du même endroit.
Puis il faut peut-être le temps que la démarche
et
soit
puis,
connue
aussi. Il faut le temps, il faut que les gens constituent leur dossier parce qu'on leur demande de prouver qu'ils sont à proximité d'un champ d'épandage, on leur demande de prouver qu'ils ont un épandage, on leur demande des certificats médicaux, on leur demande, si vous voulez, de quoi constituer vraiment un dossier.
C'est une démarche qui devrait se multiplier à travers le monde. Martha Torre-Chaube, les contentieux climatiques, eux aussi, évoluent. Ils ont plus que doublé à travers le monde ces dernières années.
Tout à fait, c'est ce qui relève plusieurs bases de données qui recueillent toutes les actions en justice concernant le changement climatique. Ce sont des actions qui sont déposées partout dans le monde, devant des cours nationales, des tribunaux de beaucoup de pays. Mais maintenant, il y en a aussi au niveau international, au niveau régional. Il y a un avis pendant, une opinion qui va être rendue par la Cour internationale des justices sur la question. Il y a un avis qui a été rendu la semaine dernière par le Tribunal international du droit de la mer.
Donc, alors justement, je vous en parlais, donc je vous arrête. C'est vrai que le Tribunal international du droit de la mer a rendu un avis consultatif estimant que les États ont l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de protéger l'environnement marin des méfaits du changement climatique. Avant d'en reparler, je vous propose d'écouter les explications de Géraud Bossement du service environnement de RFI.
Pour les 21 magistrats du tribunal de la mer, l'affaire est entendue.
Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère constituent une pollution du milieu marin.
La science est claire, a insisté le tribunal, qui, pour rendre son avis, s'est appuyé sur, je cite, les meilleures connaissances scientifiques disponibles, à savoir les rapports du GIEC. Distinguant responsabilité et obligation, le président a indiqué que les 168 États parties de la Convention du droit de la mer doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer la pollution marine issue des émissions humaines de gaz à effet de serre. Un jugement historique pour Cheryl Bazar, ambassadrice des Bahamas en Europe.
La victoire remportée aujourd'hui me rend euphorique. J'attends maintenant la coopération des États recommandée par les juges pour avancer dans la protection de quelque chose de si capital pour nos vies.
C'est la première fois qu'une cour internationale se positionne sur la question climatique et l'obligation des États de protéger l'océan. L'avis n'est pas contraignant, mais influencera fortement ceux d'autres tribunaux. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction au monde, doit justement répondre à une question similaire d'ici quelques mois.
Géraud Bossement du service environnement de RFI. Martha Torre-Chaube, c'est une vraie avancée.
Tout à fait. C'est un avis qui, effectivement, clarifie ce doute qui pouvait peser sur certains États qui voulaient se désengager de leurs obligations. Désormais, c'est clair, le tribunal a dit. C'est quand même un avis qui vient d'une autorité judiciaire internationale sur toute la question des océans et des mers. Même s'il n'est pas contraignant, je pense qu'il sera suivi et qu'il va inspirer effectivement à la fois des comportements, des préventions de la part des États, des comportements, des coopérations et probablement aussi d'autres actions en justice ou en tous les cas d'autres cours vont être encouragés par cette voie à donner des avis dans le même sens.
Corinne Lepage, c'est une avancée pour
vous ? Ce que je voudrais souligner, ce qui me paraît très intéressant dans cet avis, c'est d'abord que c'est un avis très motivé. Hein, il y a 170 pages, 467 considérants quand même. Où il y a d'une part les obligations, mais qui sont détaillées. Ça veut dire quoi une obligation ? Ça veut dire réglementer chez soi. Ça veut dire réduire les pollutions. Ça veut dire faire attention à ce qu'on fait parce que ça concerne les États voisins. Ça, c'est très important. Et puis, il y a le deuxième volet dont Mme Torre-Chaub a parlé, qui est celui de la coopération. Et ça, c'est très important parce que la coopération, c'est à la fois de travailler ensemble sur la connaissance, la surveillance, etc. Mais c'est aussi d'aider les États les plus vulnérables à pouvoir agir. Donc, si vous voulez, vous avez une forme de catalogue de ce que les États doivent faire, avec l'utilisation d'un concept qu'on connaît bien en matière climatique, qui est une responsabilité commune,
mais différenciée,
qu'on reprend, qu'on retrouve dans cet avis du droit de la mer.
Donc ça veut dire que tout le monde est responsable, mais que ceux qui ont le moins les moyens d'y faire face doivent être aidés par les autres.
Exactement, c'est ça que ça veut dire, et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et ça s'inscrit dans un mouvement qui est très général, dont Mme Torre-Chaub a parlé, qui est ce qu'on appelle la justice climatique. C'est 2500 procès dans le monde aujourd'hui, à peu près. L'arrêt qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme à propos des grands-mères suisses, dont on parlera peut-être dans un instant, et l'attente de l'avis de la Cour internationale de justice, qui est très important, qui est de savoir si les États ont l'obligation, vis-à-vis des autres, d'agir. Autrement dit, est-ce qu'un État engage sa responsabilité s'il ne fait pas son travail ? Et là, on a déjà une base dans l'avis du Tribunal international du droit de la mer, qui fixe la liste des obligations. Indirectement, si vous ne remplissez pas vos obligations, vous engagez votre responsabilité.
Alors, vous parliez en effet du procès qui a eu lieu le 9 avril dernier, où l'association suisse Les Aînés pour le Climat, constituée de retraités, a obtenu gain de cause à la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction, justement, de la Suisse face au changement climatique. Anne Maurer est coprésidente des Aînés pour le Climat et elle savoure sa victoire au micro de RFI.
Nous pouvons être très fiers, nous, les aînés pour le climat, d'avoir amené pour la première fois à la Cour le climat et les droits fondamentaux. Et la Cour nous a reconnu nos droits fondamentaux à un climat sain et à ce que notre pays fasse ce qu'il n'a pas fait jusque-là, c'est-à-dire prenne des mesures ambitieuses pour protéger notre santé et protéger évidemment l'avenir de tous et de toutes. Et je crois que ce qui a été décidé aujourd'hui, l'arrêt total fait 300 pages. Effectivement, nous allons nous y plonger plus précisément. Mais l'arrêt aujourd'hui est un arrêt historique. Et nous sommes vraiment très, très heureuses d'avoir porté ceci jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, nous allons rester très attentives à ce que la Suisse mette en œuvre la décision. Et bien entendu, nous comptons sur le comité des ministres qui doit vérifier et suivre les arrêts de la Cour pour que le pays concerné les mette en œuvre.
Oui, parce qu'une fois cet arrêt rendu, la question c'est son application, Corinne Lepage. Qu'est-ce qui peut se passer derrière ? Que doit faire la Suisse et que se passe-t-il si elle ne le fait pas ?
Il y a un mode d'emploi dans la décision de la Cour qui est effectivement extrêmement motivé sur ce que doivent faire les États. Et donc, il faut suivre le mode d'emploi qu'a mis en place la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a ensuite un suivi. Et puis, il y a, je dirais, un résultat. Hein. Vous avez baissé ou vous n'avez pas baissé vos émissions et de combien ? Le gros problème qui était posé pour la Suisse, c'était qu'en fait, la Suisse travaillait beaucoup par compensation. C'est-à-dire baisser peu directement ses émissions
et aller faire de la compensation. Des armes.
C'est un peu ça. C'est oui, un peu ça.
Pour simplifier.
Voilà. Donc ça, ça passe pas.
Mais la France a été condamnée aussi pour inaction climatique.
Alors oui, j'ai fait condamner devant le Conseil d'État dans l'affaire Grande-Synthe, qui ne reste pas terminée, puisque nous sommes à la saison 4. Et la saison 4 aura lieu au 30 juin 2024, donc on arrive. Donc la France a été reconnue, le gouvernement, comme n'ayant pas fait suffisamment pour atteindre les objectifs de 2030, avec cette innovation jurisprudentielle pour le Conseil d'État consistant à dire « moi, je suis une trajectoire ». Autrement dit, je ne vais pas attendre 2029 et demi pour voir si vous êtes bon en 2030. Je regarde année par année où vous en êtes, donc on va regarder en 2024 où nous en sommes, et notamment si les baisses que nous avons connues, car on a connu des baisses, sont conjoncturelles
ou structurelles. C'est-à-dire si elles peuvent se poursuivre ou si elles ne vont pas se poursuivre. Voilà, donc ça c'est très important, mais il faut bien comprendre que l'arrêt de la CEDH, il est applicable à tous les États.
Hein. Oui, il y a quand même 46 États.
C'est la Suisse qui a été condamnée, mais les principes qui valent pour la Suisse valent exactement pour tous les autres États membres.
Alors Martha Torrechaud, vous écrivez que le changement climatique implique une évolution transversale du droit, hein, en impliquant ce que vous appelez le risque de transition. Expliquez-nous cela.
Ah, le risque de transition est un concept qui vient du monde de la finance, en fait. C'est le gouverneur de la banque du Royaume-Uni qui a lancé cela en 2015, au moment où l'accord de Paris était négocié, McCartney. Et le risque de transition implique tous les aléas qui peuvent surgir lorsque on est dans ces cheminements, c'est-à-dire dans la transition vers l'utilisation de moins d'énergie fossile, dans la transformation aussi de l'économie et évidemment dans la transformation du droit ou en tout cas l'adaptation du droit à ce cheminement dans lequel il est souhaitable qu'on se trouve pour aboutir d'ailleurs à, aux objectifs de l'accord de Paris.
Oui, donc c'est exactement ce que vous décrivez, Corinne Lepage, finalement. Oui. C'est qu'on est dans une phase où on sait qu'on doit, par exemple, si on parle des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est évidemment valable aussi pour toutes sortes d'autres pollutions, diminuer l'impact de l'humanité sur l'environnement.
On a des objectifs communautaires à 55% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Donc voilà, c'est un objectif, et il faut essayer de le tenir. Avec une, ensuite, vous avez toute une série de textes communautaires extrêmement importants qui ont été votés. Et on parle des États, je voudrais dire un mot des entreprises. Parce qu'il faut bien comprendre que les États, leur obligation, ce n'est pas eux qui font directement forcément les réductions. C'est tous ceux qui vont appliquer la législation.
Et là, ce sont les entreprises.
Les collectivités territoriales, les entreprises et nous tous. Mmh. Bon. Et donc, le rôle des entreprises est extrêmement important. Et là, on peut voir quand même que dans le cadre du Green New Deal,
Le pacte vert européen,
qui est discuté et contesté par d'aucuns, mais je n'entrerai pas dans un débat électoral qui n'a pas lieu d'être ici.
Attendons le résultat des élections européennes.
Voilà, exactement. Exactement. Vous avez toute une série de mesures qui ont été prises en direction des entreprises et notamment ce qu'on appelle la CRDS, c'est-à-dire une transformation de la comptabilité pour avoir une comptabilité extra-financière qui montre les progrès réalisés en matière climatique, en matière biodiversité et en matière sociale et sociétale, et le pendant juridique qui est le devoir de vigilance, qu'on appelle la CS3D, met à la charge des plus grandes entreprises l'obligation de réaliser un plan de vigilance, mais il faut bien souligner que dans la mesure où ce plan de vigilance prend en considération ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire la totalité des entreprises qui vont permettre à celle qui est soumise de faire son travail, eh bien, en fait, c'est toutes les entreprises qui, progressivement, vont être concernées. Alors, on peut dire que c'est un problème de compétitivité. Moi, je ne crois pas. Je pense au contraire que c'est une formidable opportunité. Et je voudrais dire ici que la Chine est entrée dans cette logique en imposant la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, à ses entreprises. Donc si elle le fait, c'est pourquoi ? C'est un, pour avoir accès au marché européen, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'elle voit l'opportunité en termes de transformation, en termes de création de valeur, en termes de nouvelles parts de marché. Je suis désolée, je parle économie, mais c'est quand même très important.
C'est extrêmement important que les taux se resserrent.
Exactement, et qu'il y ait un intérêt à le faire.
Il y a une autre manière aussi d'aborder ces sujets, c'est en donnant des droits à la nature. Nous en parlons dans un instant, mais place au Québécois Joey Homicile et son titre YOLO sur RFI. YOLO.
YOLO. Haïti. Kiske Aboyo. 509. Ou pas vle mourir dans le film là. YOLO. Campé. YOLO.
You can't try twice. You got a child mind. With the dice, it's all fine. Playing with your life, it's like fire. I'm not trying to lie, it's alright in life.
we're doing fine, we're satin line. It's alright, we're doing fine, we're satin lines. You got the right vibe, you on the right flex. YOLO, YOLO, I'm doing YOLO. I'm dancing YOLO, I'm singing YOLO, I'm doing YOLO. YOLO, YOLO, you only live once, you only die once. I'm dancing YOLO, I'm singing YOLO, I'm doing YOLO. YOLO, 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 YOLO.
Son titre YOLO, que vous pouvez retrouver comme de nombreux autres titres dans la playlist de RFI disponible sur vos plateformes préférées.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Nous parlons du droit de l'environnement aujourd'hui dans C'est pas du vent avec l'avocate Corinne Lepage et la juriste Martha Thorey-Chaume. Un droit qui a du mal à s'imposer, nous l'avons dit, mais qui est en train d'évoluer de l'Équateur à l'Ouganda, de l'Inde à la Nouvelle-Zélande par voie constitutionnelle, législative ou jurisprudentielle. Des fleuves, des montagnes, des forêts se voient progressivement reconnaître comme des personnes juridiques et c'est aussi le sens de votre démarche pour la mer Méditerranée. Victor David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et juriste en droit et sciences sociales à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. En 2022, vous avez entamé une démarche auprès des Nations Unies pour démarrer une étude de faisabilité sur la reconnaissance de la Méditerranée en tant que personne juridique. C'est avec le projet Mermed dans lequel vous réunissez des chercheurs italiens, libanais et français. En partant de quel constat ?
Du constat que le droit applicable à la mer Méditerranée, qui est très riche depuis une cinquantaine d'années, n'atteint pas tous ses objectifs de protection de la mer Méditerranée. Et en tant que chercheur, on essaie donc de trouver des explications et des solutions. Et en termes d'évolution du droit de l'environnement et du droit de la mer, je m'appuie sur la dynamique des droits reconnus à des éléments de la nature depuis une quinzaine d'années un peu partout dans le monde. Et j'avais eu l'occasion en 2017 déjà, donc à l'occasion de la première conférence des Nations Unies, de proposer une étude de faisabilité pour l'océan Pacifique. Et j'ai repris cette idée à l'occasion de juin 2022 pour la deuxième conférence des Nations Unies. Et donc c'est l'IRD qui est porteur d'un engagement volontaire auprès des Nations Unies pour cette étude de faisabilité.
Alors qu'espérez-vous de cette démarche ?
Bah écoutez, c'est déjà donc rallié autour de ce projet un maximum de chercheurs en droit, en sciences humaines et sociales, mais aussi donc des chercheurs des sciences de la mer, pour ensemble construire, réfléchir à un nouveau régime juridique pour la mer Méditerranée. On le voit aujourd'hui, la mer Méditerranée, c'est 21 espaces maritimes, puisqu'il y a 21 États riverains. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à une certaine unité, une certaine harmonisation des règles juridiques qui visent à protéger la mer Méditerranée.
Oui, parce qu'il y a des lois qui existent déjà pour gérer les fonds marins.
Alors, il ne s'agit pas que de fonds marins. Bien sûr, vous avez raison, il existe énormément de textes. Je disais notamment, bon, il y a le droit international de la mer, il y a des traités régionaux, notamment la Convention de Barcelone, Et ensuite, je vous disais, 21 régimes juridiques nationaux. Mais le constat fait par mes collègues des sciences de l'océan, c'est que la mer Méditerranée va mal. Donc, ça veut dire que la protection juridique qu'on lui apporte aujourd'hui n'est pas suffisante. Et moi, je pense que c'est parce que justement, il y a cette pluralité de régimes juridiques que je souhaiterais, moi, ramener à un statut unique de la mer Méditerranée en tant qu'entité naturelle juridique qui aurait ses propres droits, ses propres attributs et qui pourrait mieux se défendre. Parce qu'aujourd'hui, les États sont juges et parties dans la protection de la mer Méditerranée. Et je pense que ça ne marche pas.
Oui, parce qu'aujourd'hui, elle est très polluée, elle est très abîmée avec le changement climatique, l'acidification, la hausse de la température de la surface, la perte de biodiversité. Enfin, c'est vrai que c'est aujourd'hui une mer qui est en mauvaise santé. Alors, vous dites qu'il faut désapprendre la vision d'une mer objet, ressource, espace de loisirs, de plaisir, de plaisance, voire une mer poubelle capable de tout avaler.
Effectivement, c'est le cas. Je dirais, en fait, moi, genre, pas refaire un cours de droit, mais vous savez, donc, dans le droit actuel, en tout cas, soit, il y a des personnes juridiques. Les personnes juridiques ont des droits. Et tout ce qui n'est pas humain aujourd'hui fait partie de la catégorie des objets, des choses en droit. Pour moi, c'est ça qu'il faut désapprendre. Et cette vision du monde, il faut la désapprendre et se dire qu'il peut y avoir autre chose que des objets et des sujets. Et que dans les sujets de droit, il peut y avoir autre chose que des humains. Il s'agit en tout cas de réfléchir autrement à la mer Méditerranée et à d'autres écosystèmes aquatiques sur Terre, mais on peut l'imaginer pour les forêts, pour d'autres écosystèmes, les paysages, etc.
Oui, parce que la pratique d'accorder des droits à la nature existe déjà, hein, vous le mentionniez, dans plusieurs pays.
Oui, bien sûr, oui, depuis maintenant un peu plus de 15 ans, en tout cas depuis 2008 en Équateur, qu'il a inscrit dans sa constitution que la nature était une personne juridique. Voilà, on a vu fleurir ces reconnaissances de certains écosystèmes, notamment aquatiques. C'est d'ailleurs sans doute pas innocent. Donc, il y a une prise de conscience un peu partout dans le monde sur l'importance de l'eau. Et que l'eau, aujourd'hui, en tant que cours d'eau, en tant que lac, en tant que. Et on se rend compte qu'il y a maltraitance. Et que cette maltraitance, il faut la faire cesser. Que le droit actuel n'y parvient pas. Et c'est peut-être en changeant de perspective et en considérant ces éléments de la nature comme des sujets de droit, qui ont des droits propres, qui ont le droit de vivre, qui ont le droit d'exister.
Alors, quelles sont les prochaines étapes pour votre projet Mermed?
Nous allons essayer d'avoir des ateliers de travail, essayer d'avoir aussi des financements pour recruter des doctorants ou des post-doctorants pour travailler sur ces sujets-là. Ça reste un projet de recherche avant tout. Et nous espérons avoir quelques résultats préliminaires à présenter à la Conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, en juin 2025.
Merci beaucoup, Victor David.
Merci, au revoir.
Martha Torrechaud, Victor David, participez au colloque que vous avez organisé hier à Paris sur « La nature a-t-elle des droits ?». C'est un nouveau type de démarche, hein, bon, qui, on l'a dit, qui a déjà des précédents. Vous pensez que c'est un angle important à creuser ?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce colloque a pour objectif de s'interroger, tout d'abord, et donc questionner la pertinence et les résultats de cette nouvelle démarche qui émerge ici et là, consistant à considérer que la nature a des droits. Donc on voulait donner la parole à différents chercheurs et à différents professionnels et à différents universitaires qui ont réfléchi à cette question des droits de la nature, mais qui ne partagent pas forcément le même avis. Et c'est ça que je trouve intéressant pour
et
ce colloque.
Et vous en pensez quoi?
Alors, je ne suis pas forcément dans cette perspective qui considère que si on change radicalement le droit existant et que si on accorde des droits à la nature et si on va encore plus loin et qu'on accorde une personnalité juridique à la nature, on va arranger les choses. Cela étant, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut réfléchir à pourquoi les mécanismes existants ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui ne va pas. Et je pense que ça rejoint toute la première partie de notre discussion dans l'émission, c'est-à-dire c'est un problème d'effectivité, des mises en œuvre, c'est aussi un problème des volontés politiques et un problème des moyens plus peut-être que de reconceptualiser tout ce qui existe déjà. Donc, c'est une démarche intéressante de penser que des entités naturelles puissent avoir des droits, mais pas forcément des droits comme pour une personne. Ça, c'est mon point de vue. Il faut effectivement imaginer comment mieux les protéger, mais se demander pourquoi ça n'a pas fonctionné, ce qu'on avait déjà et ce qu'on doit emprunter ces nouvelles démarches, de donner des droits, donner une personnalité. Je ne suis pas certaine que ce soit vraiment la solution. Et deuxième point de vue, mais qui est intéressant, c'est ces propositions d'accorder des droits à la nature ont cela d'intéressant d'interroger les mécanismes démocratiques de gestion de certains territoires et de certaines entités naturelles, car peut-être que c'est là la clé aussi, c'est qu'il faut aller vers des organisations, des modes de gestion plus participatifs, plus transparents, donc plus démocratiques. Mais est-ce qu'il faut forcément accorder une personnalité juridique pour arriver à cela? Je ne suis pas certaine.
Corinne Lepage, vous en pensez quoi?
Je suis tout à fait d'accord, mais je serais encore plus affirmative. Moi, je pense que c'est inutile, et voire dangereux.
Pourquoi dangereux?
Alors, pourquoi dangereux? Parce que si vous reconnaissez des droits à la nature en tant que personnalité morale, parce qu'il faut bien distinguer deux choses. Reconnaître des droits à la nature en termes de devoir être protégé, 100 fois oui. Et c'est un problème d'effectivité derrière. Et je reviens sur la Méditerranée un instant, il y a quelque chose qui s'appelle le plan bleu et la Convention de Barcelone qui précisément sont là pour ça. C'est une règle commune à tous les États de la Méditerranée. Alors ensuite, comment est-ce que c'est appliqué? C'est une autre paire de manches. Mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Bon, donc ça, c'est un problème d'effectivité. Reconnaître une personnalité morale, ça veut dire, là c'est la procédurière qui parle, que cette personne morale va agir en justice. Dans les pays où ça existe, Équateur, Colombie, c'est souvent l'Amérique du Sud. Parce qu'il y a un concept de terre-mère que nous n'avons pas, nous, dans notre système juridique. Et deuxièmement, il y a le poids des peuples premiers. La même chose au Canada. Et ces peuples premiers ont un ADN qui est lié au milieu dans lequel ils vivent. Donc reconnaître des droits à la nature, à la forêt, au fleuve machin, etc., c'est avant tout reconnaître des droits au peuple autochtone, et j'en reviens au système de gestion, qui va gérer ce milieu. Donc, c'est concevable. Mais chez nous, imaginez un instant que vous ayez des droits de la forêt XY. Qui va les exercer? C'est pas la forêt elle-même pour aller devant un juge. Donc, il faut un médiateur, qui va être une personne humaine. Ça peut pas être une personne non humaine. Qui ça va être? Si c'est des associations, bah, elles existent déjà. L'association de défense de la forêt de X, elle a tout à fait le droit d'agir pour obtenir réparation du préjudice écologique si on a fait du mal à cette forêt, obtenir la remise en état. Et par conséquent, on a l'objectif atteint. Et
donc si ce que vous dites, c'est en gros, s'il n'y a pas de peuples autochtones qui peuvent être les porte-parole de ces écosystèmes naturels...
Nous avons déjà
naturels,
ce système ce avec les associations qui peuvent parfaitement remplir cette obligation. Moi, ce qui me paraît le plus intéressant plutôt de reconnaître des droits à la nature, c'est s'occuper des générations futures. Et je pense que le concept de droit des générations futures est infiniment plus riche et porteur que celui des droits de la nature.
Eh bien, ce sera le sujet d'une autre émission. Merci à toutes les deux d'être venues dans ce studio 52 de RFI. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Continuez à nous écrire cestpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.